Marceau, le matin.
h 31, c'est plein soleil sur Québec. On est vraiment gâtés. C'est un moins 16 degrés actuellement. C'est pas chaud. Avec le refroidissement éolien, c'est une température ressentie de moins 27. Du soleil pour aujourd'hui, quelques nuages pour ce qui est de ce soir, avec un minimum de moins 16 degrés. Dans la circulation, Jeff, 418-971-101 par texto. Qu'est-ce qui se passe?
À présent, sur le réseau, ça va très bien à cette heure-ci. Comme toujours, les accidents qu'on a eus, là, notamment sur de la capitale, ça s'est réglé parce que c'est ouvert dans les deux directions. Même principe là, du côté de la rive sud, c'est très ouvert partout, même pour traverser les ponts.
Il y a des vols qui sont à destination de Cuba qui ont été annulés aujourd'hui en raison de la suspension de l'avitaillement en kérosène pour un mois sur l'île des Caraïbes. C'est notamment le cas d'Air Canada qui confirme un avis opérationnel qui a été publié hier soir, qui fait état d'un manque imminent de carburant d'aéronefs à Cuba à compter de mardi. Il y a énormément d'hôtels qui ont décidé de fermer dans les prochains jours à Cuba. Appelez votre agent de voyage là, si vous partez d'ici 14 jours, appelez votre agent de voyage si vous avez un vol destination Cuba, parce que ça se peut que les choses changent. Je vous souhaite la meilleure des chances de pouvoir partir puis d'avoir votre voyage d'une semaine à Cuba, là. Mais c'est dramatique ce qui se passe à Cuba présentement. On a le plaisir d'en jaser avec David Chabot, qui est chroniqueur en politique internationale. Salut David!
Salut!
Qu'est-ce qui fait que les compagnies aériennes maintenant commencent à annuler les vols à destination de Cuba? C'est carrément ce qui s'est passé au Venezuela, là.
Ouais, ben là, en fait, la situation est un peu différente parce que les compagnies aériennes ne peuvent plus se ravitailler, comme tu le disais. Puis sur l'île aussi, là, le manque de carburant à grandeur de l'île, c'est des génératrices qui ne peuvent plus rouler. C'est des centrales énergétiques pour le pays au complet qui arrêtent souvent du délestage, comme on a vécu ici, mais pendant 24 heures de temps. Donc, c'est vraiment dramatique ce qui se passe sur le terrain. Tu parles du Venezuela. Dans le fond, quand Trump et son environnement, son équipe, je ne sais plus comment les appeler, là, on sont allés chercher Maduro puis ils l'ont sorti du pays, une des choses qu'ils ont fait, c'est de dire « t'envoies plus de pétrole à Cuba ». Donc là, ça, c'est le tiers des importations en énergie qui rentraient à Cuba qui a été coupé du jour au lendemain. Donc là, déjà, c'était dramatique. Sauf que quelques jours plus tard, Trump et son équipe ont annoncé que tout pays qui enverrait de l'énergie à Cuba, là, nommément du carburant, se verrait mettre un tarif, là, slapper un tarif dans la face. Donc là, ça, c'est vraiment encore plus grave parce que tu perds le tiers, tu peux t'organiser, là, tu perds 100% de tes importations de pétrole parce qu'on s'entend que Cuba ne produit pas de pétrole. C'est vraiment dramatique. Il y avait un 45-50% qui venait du Mexique. Le Mexique, quand ils ont entendu parler de ces tarifs-là, ils ont dit « Dude, qu'est-ce que tu fais là? » Je veux dire, moi, j'essaie juste de faire que Cuba puisse continuer à... T'sais, les Cubains puissent continuer à vivre, finalement, parce que là, c'est même plus une question de jeu politique. T'sais, c'est plus on joue à la balle puis on essaie de déstabiliser le gouvernement. Les Nations Unies, il y a quelques jours, ont dit si la situation se déroule comme on le pense, ça va être une crise humanitaire terrible. Peut-être pas au niveau de Gaza, mais quand même, là, t'sais, les gens vont manquer de bouffe, d'électricité et tout ça. Là.
Poutine, peux-tu aider Cuba?
Ben, lui-même se dit très préoccupé. Là. Ça, c'est le langage diplomatique pour dire que je ferai rien, mais que je regarde la situation. C'était 10% à peu près des importations de Cuba en pétrole qui venaient de la Russie. Là, l'affaire, c'est que c'est une game de chicken, finalement. Parce que, mettons que Poutine dit « Hey, sais-tu quoi? Moi, je m'en fous, j'envoie des pétroliers, parce qu'ils en produisent en masse, là, du pétrole en Russie. J'envoie des pétroliers à Cuba. »
Ils vont se faire intercepter par les Américains.
Ben, tu sais, dans les années 60, là, la crise des missiles, là, on s'en souvient encore, ouais. Toute la gang, là, ouais. Les Russes envoyaient des missiles nucléaires pour les implanter à Cuba pour viser les États-Unis. Puis là, il y a eu un gros blocus, puis là, ça a été très, très tendu. Ça peut être la même chose encore. Donc là, t'envoies des pétroliers, tu te dis « Ouais, mais c'est de l'aide humanitaire. » Puis Trump, les États-Unis disent « Non, non, je t'ai dit non, c'est non. » Puis là, ça passe. Est-ce que c'est un blocus? C'est-tu juste des tarifs? Là, la Russie s'est déjà fait faire des sanctions pas possibles à cause de l'Ukraine. Donc là, est-ce que Poutine peut se dire hey, « c'est du quoi? » De toute façon, ça va déjà mal. Fait que fuck off, j'envoie mes pétroliers. Peut-être. C'est un allié historique quand même, mais... Poutine essaie de se rapprocher un peu des États-Unis, réchauffer un peu le climat. Là, avec l'Ukraine, il y a des négociations par rapport à ça. Là. Donc là, il essaie de dire, regarde, moi, je suis quand même un acteur raisonnable, on va trouver une solution en Ukraine. Fait que là, c'est sur le site...
Dans le but d'avoir des territoires additionnels ukrainiens. Là.
Ben, c'est ça. T'sais, lui, il veut régler la guerre, mais oui puis non. Là,
mais Trump veut achever Cuba?
Ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est... la prémisse de tout ça, il n'a jamais dit « je veux acheter Cuba ».
Parce que, tu sais, il va y avoir des tragédies. Là, il reste encore de la bouffe dans les hôtels, mais dans la population, ça va être de plus en plus difficile pour un père de famille ou pour une mère de famille. S'ils savent que les touristes, il reste encore de la bouffe, je t'annonce qu'ils vont traverser.
Probablement, effectivement. Puis quand le tourisme arrête, là, l'île arrête
c'est
au
fini.
Complet. Parce que la seule chose qui va rester vraiment économiquement, c'est le tabac. Puis, tu sais, ils exportent genre 500 millions par année, c'est pas grand-chose. Tout ça pour dire qu'il veut... Il affirme pas qu'il veut la fin du régime à Cuba, mais ils font tout pour que ça arrive. T'sais. Puis là, on la connaît, l'histoire. Le Marco Rubio, qui est très, très proche de Trump, qui est secrétaire d'État, c'est un descendant d'exilés cubains.
Donc, mais il est né aux États-Unis, lui.
Oui, mais ses parents ont été exilés. Puis quand Fidel Castro est rentré, parce que là, c'était le régime de Batista dans le temps, puis là, c'était quand même assez rock'n'roll à ce moment-là, les parents de Marco Rubio s'en vont aux États-Unis pour se réfugier. Là, Fidel Castro rentre, fait que là, tout le monde se dit « enfin de l'espoir, ça va changer », mais les familles qui se sont exilées sous Batista ne pouvaient pas vraiment revenir sous Castro. Donc là, lui, dans le fond, son legs historique familial, c'est « j'ai été obligé de partir de Cuba parce que c'était vraiment le trouble, puis on était à risque de se faire tuer ». Puis je peux pas y retourner jamais. Donc là, il y a comme une dent contre ce régime-là communiste. Il y a eu évidemment Fidel Castro, il y a eu son frère Raoul Castro tout de suite après. Là, maintenant, le président s'appelle Miguel Díaz-Canel. Il est dans la même lignée. Là. Lui, il est membre du Parti communiste. C'est le premier président qui est né après la Révolution de 59, mais il est dans la même direction de dire que c'est l'État communiste, puis le socialisme va sauver la planète, puis etc. Sauf que là, il est mal pris parce que son socialisme dépend du capitalisme international. Parce que t'as pas de pétrole, fait que tu t'as bien beau avoir des grands sentiments humains, faut que tu fasses avancer les autos et les taxis pareil. Là. Donc là, oui, on s'en va vers une crise vraiment sans nom qui va être vraiment très grave pour le pays. Là.
Et pourquoi Trump? C'est juste une question d'idéologie, toujours la guerre États-Unis-Cuba qu'il y a eu depuis les années 60, ou c'est vraiment envers la tête dirigeante du régime cubain?
Ou s'approprier le territoire?
Ouais, ben peut-être le territoire, mais lui, tu sais, c'est un jeu d'équilibriste pour eux, parce que si mettons qu'il faisait la même chose qu'avec Maduro, il envoie l'hélicoptère, pogne le président, part avec, je pense qu'il y aurait quand même une forte réaction de la diaspora cubaine, parce que je suis pas certain qu'il aimerait tant que ça non plus avoir une espèce d'ingérence comme ça.
Mais est-ce que, je sais pas, moi, on refait notre amitié, tu achètes notre pétrole, on t'envoie ça à Cuba, mais tu nous laisses la chance d'avoir des entreprises américaines qui vont prendre les hôtels, puis qui vont faire virer ça, puis on va mettre des casinos, puis on va s'arranger. Parce que Cuba, là, c'est une perle. Je ne sais pas s'il y a déjà été, mais c'est de toute beauté. Mais c'est sûr que si tu es au centre-ville, c'est un peu désuet. Là. Mais si tu mets des hôtels américains là, avec des casinos, ça devient une destination prisée par les gens les plus riches de la planète.
Tu as raison. Tu as absolument raison. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a beaucoup de... ils font le ménage, dans le fond, en Amérique en ce moment. Là. Amérique du Sud, Amérique centrale. Puis je serais pas surpris que les prochains à avoir de la pression, c'est le Brésil puis la Colombie. Parce que la Colombie, bien, la drogue, on le sait depuis longtemps. Ils ont pas vraiment agi directement, mais dans le swing, mettons, Maduro, ils ont quand même commencé à parler de la Colombie. Le Brésil, c'est un autre paire de manches parce que ils font partie du BRICS. C'est une grosse économie quand même en Amérique du Sud. Tu tasses pas ça comme tu veux. Mais c'est deux gouvernements socialistes qui sont vraiment tannants pour les États-Unis. Puis j'ai vraiment l'impression qu'ils ont une espèce de vision de faire de l'Amérique, tu sais, la sphère d'influence américaine. Mm-hmm. On en parle souvent, là, qu'il y a une espèce de vision de diviser le monde en trois avec la Russie en Europe puis la Chine en Asie. Donc là, j'ai l'impression qu'ils veulent faire le ménage. Puis là, ben, ça se fait directement par violence avec Maduro. Ça se fait par des moyens détournés un peu déloyal à Cuba. Puis je serais pas surpris que ça se passe aussi ailleurs. Là.
Puis c'est dans des endroits où, justement, la Chine et la Russie avaient un pied à terre. Là. C'est un peu le but de la Don Row qu'on a re-mentionné avec Donald Trump. Parce que, justement, à Venezuela, ben, les Russes, les Chinois étaient là. Le Cuba, les Russes sont impliqués. Donc, le but, c'est de sortir aussi ces alliés-là de pays américains.
Ben, effectivement. Parce que le Venezuela, c'était quand même préoccupant. Ils produisent tellement de pétrole que la Chine allait avoir une source d'énergie inépuisable. Mais la Chine, on dira bien ce qu'on veut de ce pays-là, mais ils sont très stratèges puis ils voient la vie sur le temps long. Là. Ils se disent pas qu'est-ce qu'on fait demain matin, ils se disent qu'est-ce qu'on fait pour les 100 prochaines années. Puis là, ils placent leurs pièces un peu partout pour justement avoir de l'énergie, des minéraux critiques, puis même des terres agricoles.
C'est un peuple qui est guerrier dans sa façon stratégique. Comme tu le dis, il voit ça sur 100 ans, sur 200 ans, sur 300 ans, ce que nous, on fait pas. Là.
Non.
Nous, on se dit, attends un peu, là, de quoi on va avoir de l'air à Québec dans 10 ans? On change ça. On va faire ci, on va faire ça. On va ouvrir une voie de plus là, sur le pont La Porte. Là, la porte va ouvrir quand il va y avoir un petit accident. Là, ben là, on va ouvrir une voie de l'autre sens.
On va être 1 million dans la grande région de Québec, mais on n'est pas encore capable de prévoir un projet de transport.
Non, c'est ça. Tramway, c'est trop compliqué. Ça va coûter des milliards et des millions.
Fait que là, on va revoir, on frappe le mur, puis bien, comment ça, on frappe le mur, ouais. Je sais pas. Hein.
Mais eux autres, je pense que c'est dans leur ADN. Hein? Je pense que c'est un empire.
Oui, ben c'est le confucianisme là, qui teinte beaucoup leur... leur développement politique et stratégique, mais tu le dis très bien, tu sais, une histoire comme le troisième lien, il y a la considération d'argent, capacité de payer, d'accord, mais au-delà de ça, là, parce que tu sais, ça n'a pas été aussi critique que ça allait là, maintenant quand on a commencé à parler de ce pont-là, dans le fond, ça aurait été juste de dire on le fait puis on le fait, puis c'est tout.
Ben, c'est ça. Là.
C'est pas un sondage d'opinion, là. On va le faire puis ça va être ça, puis après ça, ben, il va exister puis on va développer autour de ça. Ils ont fait la même chose, là, ils se chauffaient beaucoup au charbon, là, c'est encore vrai, mais de moins en moins. Là, ils ont lancé des grands chantiers pour faire des barrages hydroélectriques. Puis là, le Québec, on se pète les bretelles pour dire qu'on est des champions de l'hydroélectricité. Puis c'est pas faux, parce qu'on a développé une belle expertise dans les années 70-80. Mais la Chine fait plus de barrages à chaque année qu'on en a au Québec, là, tu sais. Fait que là, on n'est plus les top kingpins là-dedans. Là. Puis là, nous autres aussi, on est en grand projet de société à savoir est-ce qu'Hydro-Québec, on va doubler ou tripler, je me souviens plus trop, là, la capacité.
Avec ouais, des c'est doublé.
Doublé, là. Fait que des investissements majeurs comme ça, ben à mon sens, c'est pas une question. L'énergie, c'est toute la base de tout ça. On le voit avec Cuba, justement. T'as plus d'énergie, tu plantes. Fait que là, ben assure-toi de jamais en manquer. Mais là, c'est des grands débats de société. Puis je dis pas que c'est pas important de se questionner sur l'impact environnemental puis les Premières Nations puis tout ça. Sauf que c'est pas genre, hey, on le fait-tu ou on le fait pas? C'est, on va le faire puis on va trouver la façon que ce soit le mieux
possible. Non, c'est ça. Parce que là, tu sais, arrêtons justement de toujours être sur le frein et de dire, ah, je suis pas sûr. T'sais, c'est de prendre des décisions puis de les réaliser.
Ouais.
Puis une fois que le projet est fait, de toute façon, comme tu l'as bien dit, ça se construit autour puis le milieu de vie, le réseau économique se développe.
Oui, on s'en parle souvent, là, c'est une époque de wake-up call pour la planète au complet, de dire on était dépendant des autres, là, puis je parle pas juste du Québec puis du Canada, là, dans l'ensemble du monde. Là. Puis là, tu fais comme, hop, sais-tu quoi, on va peut-être essayer d'être un peu plus indépendant. Puis
ouais.
Tu sais, encore, c'était hier ou un matin qu'il y a un article dans la presse qui dit que la stratégie nationale là, de défense va être dévoilée comme aujourd'hui ou demain. Puis un de ces principes-là, ça va être vraiment de développer le complexe industrialo-militaire canadien. Fait que là, soudainement, on va faire nos propres armes, on va être indépendant là-dedans, puis on va développer nos propres technologies. Ce qui était vrai dans le temps, là, puis là, en tout cas, je suis en train de changer de sujet complètement, mais tu sais, l'avion Avro-Arro, là, on en avait déjà parlé ici. Là,
c'est une fierté.
C'est un jet qui serait peut-être même quasiment encore d'actualité aujourd'hui. Là, ouais. Ça a été fait dans les années 50-60. Puis là, tout a été scrappé parce que là, on s'est dit, ah, les États-Unis ne seront pas contents parce que là, le Canada va être indépendant, va avoir une technologie qu'ils n'ont pas, puis etc. Puis là, on l'a scrappé. Puis là, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on se débat à savoir, on achète-tu des F-35 aux États-Unis ou des Gripen ensuite? T'sais, on n'est plus là, là. Mais on a déjà eu cette industrie-là. Là. Donc là, c'est toute la grande réflexion de dire, et puis là, je vous parle de militaire, mais ça peut être pour économique, ça peut être justement pour la production d'énergie, ça peut être pour plein de questions.
Mais la dépendance n'a jamais, jamais été une bonne chose.
Non.
L'indépendance, ça peut aider. Je suis content que Max soit pas là.
Ouais, c'est ça, parce que là, il nous verrait ça avec le fleur de lysée.
David Chabot, c'est toujours un plaisir. T'as-tu aimé ton Super Bowl hier?
Ben oui, là, on s'en parlait justement d'aller en onde. La game... un petit peu underwhelming. J'ai beaucoup aimé le show de mi-temps, même si on comprend pas ce qu'il dit. Là.
Ouais.
C'est pas mon genre de musique.
T'as peu, là. T'as peu. Moi, j'ai un extrait du show de la mi-temps. Là. Je comprends tout ça, moi, là. Là. Non, ça avait au moins du rythme, on va se le dire.
Ouais,
les
ouais.
Images étaient superbes.
Ah, vraiment?
Les chorégraphies étaient incroyables. Tous les petits messages qu'on envoyait là, tout au long de la mi-temps, c'était le fun à voir. Mais tu sais, moi, le chanteur, même si c'est un des chanteurs, en fait, c'est le chanteur le plus écouté à la grandeur de la planète, de ce qu'on comprend. Moi, ça me dit rien, mais je regardais mes gars s'amuser sur le divan, là.
D'ailleurs, les autres, c'est trippé.
Je suis content que leur mère soit au Maroc actuellement, parce que si elle avait vu l'état de son divan par la suite, elle n'aurait pas été contente. Mais on va faire du lavage à soir, elle arrive demain. Les gars trippaient. Fait que j'ai compris le phénomène, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'a convaincu d'écouter dans mon char. C'est pas du tout. J'ai adoré le message de l'unification.
Ben oui, ben oui.
Quand il dit que l'amour, ça va toujours être plus fort que la haine. J'ai aimé ça. Puis c'est vrai que l'Amérique, c'est pas juste les États-Unis. Il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Amérique du Nord. On est tous ensemble, tu sais.
Les drapeaux, c'était fort à la fin. Là.
Oui.
Puis l'espèce de showbiz là, de Turning Point, là, qui, là, il se tape les bretelles.
Je vais l'écouter après-midi, là. Denis, il m'a détruit le show. On dirait que ça me tente plus de l'écouter, là. Mais je vais l'écouter après-midi.
écoute, c'était spécial, je te dirais. Là. Mais tu sais, 5 millions de codes d'écoute, ce qui est quand même pas banal. Là. 5 non. millions de views, c'est quand même gros. Mais tu sais, le Super Bowl, le show de la mi-temps, c'était 165 millions. Là.
Ouais.
T'es même pas proche d'être proche. Là. Mm-hmm. Fait que tu sais, je sens une espèce de... Un peu un effritement, peut-être, là, du mouvement MAGA. Ils sont tellement allés loin, puis intensément, puis ice, puis tout ça, là, que là, je sens qu'il y a peut-être un peu un essoufflement là-dessus. Puis l'espèce de mouvement alternatif anti-woke, là, ben là, c'est plus ça. Là, c'est rendu que c'est un mouvement de bonhommes un peu grognons qui veulent juste avoir leur rêve d'une Amérique blanche.
Ouais, ouais puis, tu sais, ice a tellement poussé la limite, là, t'sais, notamment avec les deux personnes décédées à Minneapolis, que l'Américain moyen se retrouve pas du tout là-dedans.
Exact.
Exact. Mais pour le reste, la game, je pense que c'était pas hier, le Super Bowl. C'était là deux semaines à peu près.
Oui, Seahawks contre Rams un dimanche soir. C'était extraordinaire.
C'était
comme
un peu plus spectaculaire. J'aurais pas aimé ça être les gars des Pats. Là, première demi, là, c'était une catastrophe. Il était pas capable de rien faire.
Non.
Puis le joueur, la personne la plus surprenante là, pour gagner des verges, je sais pas si c'est un joueur des Pats, mais c'est un gars qui s'est ramassé en bedaine sur le terrain.
Un
nu vite. Sérieux, lui, il courait, là.
Ah oui, griffe, il faudrait qu'il le signe demain matin.
Il y a des équipes qui appellent présentement. Hey, t'es rapide, toi.
David Chabot, t'as besoin de passer une belle semaine, mon ami. On se reparle lundi prochain.
Merci, boys.
Salut, David.
Bye-bye. Il est 9h47, on revient. Boulevard 102.1.